Je m'appelle Sarah Delatte, je suis géographe et je travaille aujourd'hui comme chargée de mission chez Inter-Environnement Bruxelles.
Tu as enquêté pour comprendre qui déménage à Bruxelles et vers où. Alors qu'est-ce qu'on observe et que déduis-tu de la dynamique assez fluide de ces déménagements ?
Moi, je me suis surtout intéressée au déménagement des classes populaires, en tout cas des ménages qui ont les catégories de revenus les plus faibles. Et alors, ce que j'ai observé, c'est d'abord que par rapport aux autres catégories de revenus, ils déménagent beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus souvent. Ils déménagent aussi, surtout en premier lieu, à Bruxelles et encore plus près de là où ils habitaient avant, donc dans les mêmes quartiers. Mais ensuite, néanmoins, ils ont aussi tendance à déménager un peu partout dans la région et même à quitter la région. Et donc plus spécifiquement, moi, je me suis beaucoup plus intéressée aux ménages qui ont des revenus faibles et qui quittent la région de Bruxelles-Capitale pour aller s'installer en dehors de la région, que ce soit tout près ou vraiment beaucoup plus loin. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? A priori, je pense qu'en fait, c'était des choses qu'on savait, c'est-à-dire qu'en fait, une partie des données existe depuis longtemps, mais il n'y avait pas vraiment eu ce focus sur les catégories de ménages pauvres, en fait. Et notamment, il me semble que c'est aussi lié à tout ce discours d'attractivité en ville. Il faut retenir les classes moyennes des ménages, et c'est vraiment un très gros problème, etc., etc. Et je pense que ce discours avait un peu tendance à occulter le fait que, ben, un ménage sur trois qui quitte Bruxelles appartient aux classes populaires, ce qui est quand même vraiment pas négligeable. Ils déménagent pour plusieurs raisons. Alors d'abord, donc j'ai complété les données statistiques par des données qualitatives. Et en fait, ce qui apparaît surtout, c'est qu'à Bruxelles, ils ont des expériences de logement qui sont très compliquées, notamment liées à la faiblesse de leurs revenus, donc une difficulté à trouver un endroit dans lequel se loger qui soit un petit peu digne, ou en tout cas qui soit un minimum salubre, une difficulté à trouver un logement qui corresponde à leurs besoins, à la taille du ménage, etc. Puis, évidemment, un des autres problèmes, c'est que le marché privé est très raciste et donc les discriminations étant très importantes, une partie des ménages que j'ai interviewés, en fait, ils n'étaient pas nécessairement demandeurs d'habiter dans certains quartiers, mais c'était les seuls dans lesquels ils trouvaient à se loger. Donc à la fois une problématique d'insertion sur un marché du logement qui est discriminatoire et cher. Et puis, d'autre part, il y a aussi le fait, et c'est difficile à percevoir parce que ce sont notamment des choses qui ne sont pas enregistrées statistiquement, mais c'est aussi un marché du logement très insécurisant. Donc les personnes que moi j'ai interviewées qui s'étaient installées en périphérie, ils avaient vécu plusieurs expulsions et notamment plusieurs expulsions dans les 3-4 dernières années de leur vie à Bruxelles. Et il y avait un peu cette idée de, bon ok, en fait, être expulsé ou devoir déménager à 35-40 ans avec les enfants et tout, c'est jouable, mais qu'est-ce qu'on va faire quand on aura 60 temps et qu'en fait, porter nos meubles, ça va être vraiment difficile. Donc, tout ça, ça fait une expérience du logement qui est difficile à Bruxelles. Et il me semble particulièrement difficile, tandis que les revenus sont limités.
La taille des ménages aussi, hein ?
Oui. Effectivement, la taille des ménages peut impacter très fort l'expérience qu'on a à Bruxelles. C'est clair que se loger quand on a trois enfants ou quatre enfants, c'est compliqué. Mais c'est déjà compliqué avec deux enfants quand on a des revenus réduits, en fait.
Alors, on sent qu'il y a une part du public qui part par choix et l'autre par contrainte financière. Un manque d'accès à ces appartements qui sont adaptés à la famille, un quartier qui est peut-être mal vécu aussi. Qu'est-ce qui n'est pas fait à Bruxelles pour loger les pauvres ? Donc la question politique, les familles moyennes, qu'est-ce qui ne devrait plus être mis en place aussi, qui provoque ce remplacement à Bruxelles ? C'est petit à petit, c'est de plus en plus cher à chaque fois qu'on se reloge. Et dans certains quartiers, ça devient carrément impossible de reloger une famille.
Ben, la question, elle touche à beaucoup, beaucoup d'éléments, il me semble. Juste par rapport au quartier, il y a un élément qui apparaissait vraiment dans les discussions que moi j'ai eu l'occasion d'avoir, c'était un rapport très ambivalent au quartier de départ. Donc, c'est-à-dire un manque immense pour les adultes, pour les parents. Donc, j'ai beaucoup discuté avec plutôt des mères de famille pour qui l'éloignement au quartier populaire était vraiment mal vécu, en fait. Et elles avaient un usage de Bruxelles intense. Plusieurs fois par semaine, elles retournaient sur Bruxelles. Et de l'autre côté, un rapport plutôt négatif au quartier. C'est un quartier dans lequel c'est difficile pour les enfants de continuer à avoir une scolarité de qualité. Et puis, on a un peu peur, surtout pour les garçons, notamment qu'ils aient des fréquentations qui ne soient pas terribles. Mmh. Il me semble que ces éléments-là, ils peuvent aussi être liés à la taille des logements. C'est-à-dire qu'en fait, quand le logement est trop petit et qu'on ne peut pas y avoir une certaine intimité, on va chercher cette intimité ailleurs, quoi. Mais par rapport à ta question plus précisément sur ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, je crois qu'il y a des réponses à plusieurs niveaux et à plusieurs niveaux d'utopie ou de radicalité, je ne sais pas comment le dire. Le marché privé ne permet pas de loger tout le monde parce qu'il y a une mise en concurrence et que de l'autre côté, on est dans une société inégalitaire dans laquelle certaines personnes sont moins bien payées que d'autres. Et à Bruxelles, la catégorie de population qui est moins bien payée que la moyenne nationale, elle est très importante. Donc si on s'intéresse aux déciles de revenus, moi je me suis basée sur les déciles de revenus. Et en fait, si on prend les niveaux de déciles nationaux, à Bruxelles, les personnes qui correspondent aux trois premiers déciles de revenus, en fait, c'est plus de la moitié de la population bruxelloise. Donc, il y a vraiment très, très fortement le fait qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas riches. Ces gens pas riches rentrent en concurrence les uns avec les autres sur un marché qui est saturé. Et donc, les prix peuvent augmenter parce qu'il y a une loi de l'offre et de la demande. Par ailleurs, il y a des phénomènes de spéculation, il y a des phénomènes de réinvestissement dans l'immobilier parce qu'on est dans un moment dans lequel la finance est un peu stressante sur les marchés financiers, etc. Donc ça va avoir un effet qui fait monter les prix. Tous les prix à Bruxelles ont augmenté. Tous les gens qui ne sont pas propriétaires, et certainement tous les gens qui ne sont pas propriétaires bailleurs, vont être impactés par cette montée des prix. Simplement, quand on gagne 2 000, 2 500 euros, ça n'a pas le même effet sur ce qu'il nous reste pour vivre que quand on en gagne 1 200. Donc il y a juste un phénomène comme ça. Mais l'augmentation des prix, elle est défavorable à toute personne qui n'est pas propriétaire bailleur, même si c'est difficile à percevoir, parce qu'on veut tous, on espère tous devenir propriétaire. Je crois qu'on espère tous devenir propriétaire pour se sécuriser, et du coup, c'est un peu difficile de comprendre que quand on est occupé à parler du problème de la propriété immobilière, eh bien, en fait, ça nous concerne quand même. Et donc, ça, c'est peut-être à un niveau un peu macro, un peu bon, OK, laissons-nous rêver d'autre chose. Je pense que ce qui impacte le fait qu'on ne peut pas loger les pauvres à Bruxelles, ben, c'est le fait qu'on n'a pas une gestion collective de notre foncier et de nos appartements.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau politique pour pouvoir permettre des déménagements un petit peu plus respectueux des familles en milieu populaire ?
Ben, si tu ne sors pas du cadre, c'est-à-dire si tu dis, OK, bon, ben, écoute, ça, c'est un peu trop radical. La collectivisation de tous les logements, on ne va pas le faire, eh bien alors il faut de toute façon, d'une façon ou d'une autre, il faut contraindre la propriété privée. Que ce soit en imaginant une limitation sur les loyers, que ce soit en imaginant une fiscalité juste, c'est-à-dire que le fait de louer des logements soit taxé à hauteur de ce que ça rapporte, parce que en fait on taxe les revenus du travail, mais on ne taxe pas les revenus de l'immobilier de la même façon. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut questionner, parce que finalement, quand on est dans un logement, ben, par exemple, moi, en fait, si on regarde, je travaille 4 semaines par mois, plus ou moins. Je passe plus d'une semaine à travailler uniquement pour mon propriétaire. Ce qui est quand même particulier quand on le pose en ces termes. Mais d'accord, si on ne fait pas tout ça, bien certainement, il faut construire du logement social, en fait. Là-dessus, je pense qu'on ne va pas y couper. Si on veut vraiment essayer de se dire que l'objectif, c'est d'être juste par rapport à la population qui est déjà sur le sol, eh bien alors, il faut clairement construire du logement social, c'est-à-dire construire du logement qui réponde à des besoins et non pas à la question des moyens, et des logements qui sortent de la concurrence, de la mise en concurrence des pauvres les uns par rapport aux autres et des moins pauvres par rapport aux pauvres. Parce que, par exemple, moi, j'habite dans un quartier populaire, il est certain que ma solvabilité impacte d'une façon ou d'une autre le reste du jeu immobilier qui a lieu dans ce quartier-ci. Donc là-dessus, il y a vraiment quelque chose. Et puis de l'autre côté, par rapport aux promoteurs qui ont les moyens de construire des logements en plus grande quantité, disons que ce sont vraiment des questions compliquées, parce que finalement, est-ce que la question, c'est de produire du logement pour les pauvres maintenant, là, tout de suite, ou est-ce que la question, c'est d'empêcher que plus tard une spéculation immobilière ait lieu ? Je m'explique. Les promoteurs immobiliers dans beaucoup de zones ont tendance à construire du logement de chambre, classe moyenne. Toi et moi, on le voit. Moi, je travaille pour Inter Environnement, tu travailles pour le BRAL. Les projets qu'on est amenés à étudier montrent ça, montrent vraiment une construction de cubes blancs avec des logements, en moyenne, des logements de chambre qui se destinent à la classe moyenne ou une classe encore plus élevée que celle-là ou en fait directement aux investisseurs immobiliers. Le plus souvent, moi, les projets que j'ai l'occasion de voir, si tu vas sur le site internet, il n'est pas mis « habité » en premier onglet où tu peux cliquer, il est mis « investir ». Donc là, ça pose question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on construit pour qui, à quelle fin ?
Mais ça, c'est la question que tu poses au marché, mais on a quand même une politique qui vise à encourager aussi ces investissements. Quand on dit qu'il y a eu une explosion démographique à Bruxelles, il faut loger tout le monde. Mm-hmm. Ça fait déjà deux gouvernements qu'on le dit, on le dit encore dans le nouveau gouvernement ici. Donc, quelle est cette politique qu'on mène qui encourage ces phénomènes d'investissement spéculatif et qu'il faudrait peut-être arrêter de mener ? Quelle est la politique qui existe et qui n'est pas bonne ?
En fait, il y en a plein. Je pense que... Mais c'est un jeu hyper compliqué. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, si je me pose et que je me mets à la place des décideurs publics, j'imagine que la question que tu te poses, c'est qui a l'argent ? Et bon, clairement, c'est moins les pouvoirs publics que les investisseurs. Donc, je crois que malheureusement, il faut pouvoir sortir de cet esprit-là et arrêter de dérouler les tapis rouges. De plein de façons, le tapis rouge est déroulé, que ce soit avec des plans qui sont précisément... des plans qui ont un impact géographique, quoi. Donc, on pense par exemple au plan d'aménagement directeur. Il y en a un qui est sorti sur la porte de Ninove, pile poil sur un terrain qui est la propriété de Bézix, pile poil qui permet de construire 3 tours, pile poil ce que Bézix souhaitait faire. Là, bon, pour moi, ça pose d'immenses questions. C'est immensément problématique. Comme démarche. Donc je crois que d'une part, il s'agit de ne pas tailler des plans sur mesure pour la promotion immobilière. Et d'autre part, je crois qu'il s'agit vraiment de se demander de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin ici, là, collectivement, et comment est-ce qu'on arrive à ça. Mais c'est super compliqué aussi, parce que par exemple, on voit que le régime des agences immobilières sociales, qui avait comme objectif au départ... L'idée suivante, bon, il y a des gens qui héritent de maisons qui sont déglinguées un peu partout dans Bruxelles. Ils n'ont pas les thunes pour les rénover, mais ils ne vont pas les vendre. Est-ce qu'on ne pourrait pas momentanément socialiser ce parc de logements-là ? Ça, c'était l'idée de base des AIS, avec une idée de décentralisation d'une partie des logements sociaux, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la façon dont le système a été conçu permet à des investisseurs d'entrer en masse dans le dispositif, de tirer de l'argent par des subventions publiques de construction dont, en fait, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir dans 27 ans. Notamment dans des espèces de fronts de gentrification. Enfin, voilà, ça pose plein de questions à plein de moments. Donc, il n'y a pas une réponse de ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a plein de réponses, plein de questions à se poser et à se poser à un autre niveau que celui sur lequel on le fait. Mais ça nécessite d'assumer une politique de gauche, en fait. Et ça nécessite aussi d'assumer une pensée par rapport à la propriété privée, qui est un rapport conflictuel à la propriété privée. C'est très difficile en Belgique. La propriété privée, l'accès à la propriété privée en Belgique, il a été poussé à bloc depuis la création de l'État. Et donc, c'est très compliqué d'aller contre tout ça. Mais je pense que malgré tout, c'est quand même là-dessus qu'il va falloir se poser des questions.
Quand tu parles de gentrification, et c'est là un peu la dernière question, il y a une gentrification par encouragement, par amélioration de la réputation d'un quartier, et puis il y a de la gentrification ou bulldozer pour y construire d'autres logements. Ouais. Est-ce que dans les deux cas, les politiques qui sont menées mènent à une destruction du logement modeste à Bruxelles ?
Non. Bon, la gentrification entendue comme réinvestissement de capitaux dans un quartier populaire dans lequel jusqu'alors il n'y avait plus de capital qui était investi, c'est un phénomène qui a lieu à plein d'endroits à Bruxelles. Mais le premier effet de ce phénomène-là, c'est une augmentation des prix du foncier et des loyers. Et donc, de fait, une diminution des conditions de vie sur place d'une partie des classes populaires. C'est-à-dire que le premier effet, c'est pas une espèce de fuite massive des pauvres. Le premier effet, c'est « Ah, en fait, mon loyer augmente, c'est plus difficile de me loger » ou « J'ai plus peur qu'avant de trouver à me reloger, donc je ferme ma gueule parce qu'il y a des fuites dans mon appartement, etc. » Donc que ce soit parce que, en fait, t'as une attaque directe sur le budget des ménages ou que ce soit parce qu'il y a une dégradation du bien-être, du bien-vivre dans l'appartement, le premier effet, c'est une dégradation des conditions de vie sur place. Donc ça ne mène pas nécessairement directement à une destruction des logements des logements modestes. Et puis comme je l'ai dit, la concurrence sur le marché, sur le segment modeste des logements, elle est très forte. Donc en fait, c'est très rentable, l'air de rien, de loger du pauvre en grande quantité. Donc de là à ce qui est totalement un remplacement, ça prend du temps. Et ça nécessite souvent l'arrivée d'autres acteurs qui vont racheter des logements et qui vont en faire autre chose. Ça prend du temps, en fait. Ça prend vraiment beaucoup de temps, ces phénomènes-là. Quand on pense, Saint-Gilles, par exemple, c'est une commune dans laquelle les premiers warnings, attention, il est occupé à se passer quelque chose ici. En fait, c'était dans les années 80 que Saint-Gilles a commencé à devenir une commune un peu cool. On est en 2019, il y a toujours des pauvres à Saint-Gilles. N'en déplaise au pouvoir public. Donc ça prend vraiment du temps. Mais pour autant, ça viendrait dans la tête de personne de dire maintenant « Ah, Saint-Gilles, il n'y a pas de gentrification. » Ça a l'air complètement absurde. Personne ne va tenir un tel discours.
Si cette émission s'appelait « Ceux qui ont les moyens déménagent et ceux qui ne les ont pas dégagent », tu serais d'accord avec ça ?
Non, pas tout à fait. Parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai eu l'occasion d'observer, c'est que sur les personnes qui déménagent de Bruxelles, il y a la nécessité de mettre en place des compétences qui ne sont pas également réparties. Et elles ne sont pas également réparties non plus au sein des classes populaires. C'est-à-dire que trouver un logement en dehors de Bruxelles, potentiellement dans une langue qui est encore moins la tienne que le français ne l'était, etc., etc., ça nécessite de pouvoir mobiliser des compétences sociales, des compétences culturelles, etc., etc. Donc en fait, tout le monde ne déménage pas et tout le monde ne dégage pas, même si potentiellement ça serait mieux pour eux de le faire. C'est un peu compliqué. Mais c'est sûr que le rapport au déménagement, je pense, est très inégalement réparti au sein des classes sociales. Ça, c'est sûr que les riches, ils choisissent où ils vont habiter. Les classes moyennes, elles font des choix un peu contraints. Et les catégories populaires, elles font des choix méga contraints. Donc, il y a un rapport au déménagement qui n'est pas vécu du tout de la même façon et qui, ensuite, après le déménagement, n'a pas les mêmes impacts, quoi.
Tu es géographe. Où est-ce que déménagent les pauvres quand ils quittent Bruxelles ?
En premier lieu, ils déménagent autour de Bruxelles, dans des communes qui restaient accessibles jusqu'ici, Vilvorde ou un peu plus loin, Ninove, Malines, etc. Ils déménagent aussi le long de la vallée de la Dendre, donc, c'est-à-dire du côté de Lessines, Gramont, à l'Ost. Ils déménagent aussi dans le Sillon sans Brémeuse, donc moins massivement, mais de façon très spécifique, c'est-à-dire quantitativement, ils sont moins nombreux à aller s'installer à Charleroi, la Louvière, Mons. Mais c'est vraiment une destination qui est spécifique aux catégories populaires, beaucoup moins aux classes moyennes et aux classes supérieures. Donc en fait, ils déménagent dans des espaces dans lesquels on trouve un parc bâti à bon marché.